Notre histoire, enfants la Creuse.
Notre histoire, celle des enfants de la Creuse.
C'est une déportation.
C'est une déportation.
Réunion Creuse direct.
Réunion Creuse direct.
En 1966.
En 1966.
Nos parents ne savaient pas qu'on reviendrait jamais.
Nos parents ne savaient pas que l'on ne reviendrait jamais.
Ban, l'État français les coupable.
L'État français est coupable.
Ils pleuraient tous. J'ai pas compris pourquoi ils pleuraient. Je sais pas. Et ma maîtresse, elle me dit « Jaco, garde ton cahier de classe, t'en auras besoin. » Et puis tout rendu, eh ben, j'ai embarqué dans cette voiture. C'est là que j'ai compris. Ils m'avaient tous menti. Et j'en voulais à ma tata, à mon tonton, à ma maîtresse, à tout le monde. C'était un deuxième aussi enlèvement. Et c'est là que je me suis dit, je ne serai plus le petit Jaco. Je ne serai plus le Martial souriant, gai. Martial, il va se taire. Martial, il va plus rire. Martial, il va se retrouver dans un fait noir. Ces sévices ont commencé à 14 ans. Ils ont fini à 18 ans. Les viols ont été commis plusieurs fois sans pouvoir répondre. Même si je disais... « Mais je suis un marmé, tu n'as pas le droit de faire ça, tu fais un crime. » Et j'ai prévenu, un jour, tu connaîtras ma réponse. Jean-Jacques.
Je demande aux Réunionnais qu'ils n'oublient pas notre histoire. Qu'ils n'oublient pas. Et puis, qu'on reconnaisse quand même qu'on est de quelque part. Qu'on a nos racines là-bas. On a nos racines. Là, les Réunionnais, je crois qu'ils comprennent ça. Certains. Certains ne comprennent pas. Et ils disaient qu'on était des oreilles mal blanchies. Bon sang, on te sort ça. Moi, je dis, écoute, tu te tais, quoi. Tu as eu la chance d'avoir ton père et ta mère, mais garde-les. Garde-la, ta famille. Nous, on n'a pas eu cette chance. On n'a pas eu ce bonheur-là. Alors, respecte-nous. Ou bien tu nous dis rien, c'est pas grave. Mais qu'on ne nous dise pas des choses comme ça. On n'est pas revenu à La Réunion voir notre île, voir où on est né, voir des endroits où on a eu un peu de bonheur quand même. On n'est pas revenu pour qu'ils nous parlent comme ça. Au moins qu'ils le comprennent, ça. On ne demande pas des grands gestes, mais nous laisser fondre dans la foule, tout simplement. Hein ? Aller à la mer, aller dans un cimetière, même si arrivé dans un cimetière, tu ne sais plus où ils sont enterrés. Mais ce n'est pas grave. D'être là, d'être à côté de ceux que tu as aimés, c'est important. C'est tout ce que je leur demande. Lydie.
Bien, bonjour à toutes et tous. Quelle performance! J'ai pu l'entendre. Merci pour cette introduction artistique, vibrante, émouvante. Je tiens tout d'abord à remercier l'INED et son unité Migration internationale et minorités, autant que les organisateurs de ce colloque pour cette invitation. Je m'entends en écho. Je ne sais pas si c'est possible de régler ça. Je remercie également le Musée de l'Histoire de l'Immigration pour leur accueil, même en distanciel. Je suis vraiment désolé de n'avoir pu être présent physiquement aujourd'hui. Nous sommes dans une zone compliqué dans le sud. Alors, je vais vous parler de la transplantation des 10 mineurs de la Creuse, label qui est médiatisé, mais auquel on préférera par la suite celui de mineurs transplantés de la Réunion. On verra pourquoi ce changement de label. Je n'aborde pas les raisons qui m'ont poussé à m'intéresser à cet épisode de l'histoire de France. Depuis 20 ans, un temps long pour la recherche, presque aussi long que celui de la transplantation des mineurs de la Réunion. Je parlerai aujourd'hui en sociologue, mais aussi avec les voix de mes collègues historiens et géographes, experts de l'ex-commission nationale qui a travaillé sur cet épisode et que j'ai eu l'honneur de présider de 2016 à 2018. J'y reviendrai. Pour ces 25 minutes déjà entamées, je vais tenter de nous amener à comprendre comment, dans le contexte particulier de la Réunion des années 60, des responsables politiques et une administration ont pu mettre en œuvre une utopie dangereuse, pour reprendre l'expression d'une responsable du ministère des Affaires sociales des années 70. De tout ce que j'ai pu lire, voir, entendre à propos de cet épisode, on s'est focalisé avant tout, et on peut le comprendre, sur l'émotion que suscite le destin tragique de ces ex-mineurs transplantés. Et prendre du recul historique et sociologique, c'est prendre du recul pour analyser. Expliquer n'est pas excuser, et il faut comprendre une mémoire pour la transmettre. Alors, je commence par la trame, par l'énigme de cet épisode de l'histoire de France. En 2001, Jean-Jacques Martial, alors nommé Barbet, dépose plainte contre l'État français. Une plainte pour enlèvement, séquestration de mineurs, rafle et déportation, assortie d'une demande de réparation de 2 milliards d'euros. Pourquoi cette plainte ? Bien, suite à des recherches généalogiques, Jean-Jacques Martial apprend brutalement les conditions de son transfert dans l'Hexagone, son véritable nom de famille et, lui qui se croyait orphelin, l'existence d'une mère, d'un frère et d'une sœur à La Réunion. Suivent d'autres plaintes, dont certaines relayées par des associations de Réunionnais qui se qualifient de déportés, d'enfants volés, puis une surmédiatisation de cette transplantation à travers des reportages télévisés, radio, des romans, des téléfilms plus ou moins racoleurs sur la désormais labellisée affaire des Réunionnais de la Creuse. Alors, les années 60 à La Réunion, un département en souffrance. On est en 1946, date de la départementalisation de La Réunion, et on peut dire que l'île est dans une situation catastrophique. Le cyclone de 48 y renforce une misère économique et sociale et un archaïsme des structures sanitaires de l'île. La question des mineurs, des enfants abandonnés et des pupilles se pose depuis la départementalisation. Il y a bien la loi de 43 sur l'assistance à l'enfance qui est étendue à La Réunion en 47. Mais jusque-là, les actions sociales et sanitaires en faveur des enfants étaient l'œuvre, avec vraiment peu de moyens, soit en grande majorité de l'Église, soit d'actions individuelles de notables et des représentants de l'État. C'est la direction départementale de la population, ouverte au même moment que la direction départementale de la santé en 1951, qui se voit attribuer dans l'île la mise en œuvre des lois sociales. La première assistante sociale est recrutée en janvier 1951 et en 1953, on en compte 7 pour 274 000 habitants. Et en 1960, elles sont 10 pour 340 000 habitants. Je n'ai pas fait le pourcentage, mais vous pouvez vous imaginer ce que ça représente. En 1959, on ne compte dans l'île que 5 foyers d'accueil, dont 4 tenus par des religieux. Un seul est à Saint-Denis-de-la-Réunion. La pouponnière qui est occupée à plus de 90% et qui est loin de proposer des conditions d'accueil satisfaisantes. Les autres centres sont en zone rurale. Quant aux filles mères, le plus souvent rejetées par leur famille, elles ne disposent d'aucune structure adaptée jusqu'à ce que la préfecture obtienne en 1968 par le ministère la construction d'une maison maternelle. Mais la capacité de cette maison maternelle n'est pas à la hauteur des besoins de l'île. Un spectre hante La Réunion. Dans ce contexte, la démographie devient une psychose pour les politiques locaux. J'ajouterai même, mais certains dans la salle le savent bien mieux que moi, dans un contexte de psychose démographique généralisée. Pensons à l'ouvrage très connu de Dumont et Rosier de 1966, intitulé « Nous allons à la famine ». Concernant la démographie réunionnaise, je ne vais pas rentrer dans les détails et je vous renvoie au rapport de la Commission nationale. Je vous donnerai les références plus tard, il est en ligne. Comme d'ailleurs, on peut se référer à la célèbre étude d'Alfred Sauvy de 1957. Disons rapidement qu'au moment de la départementalisation, La Réunion est très peuplée et pour certains surpeuplée. La population compte 227 000 âmes en 1946, 274 000 habitants en 1954 et 347 500 en 1961. Il faut bien garder en mémoire la géographie de l'île et le fait que ça soit une île agricole, ce qui complique encore le surpeuplement avec une forte densité au kilomètre carré. La natalité, elle augmente fortement après la départementalisation de 1946, et l'évolution démographique de la Réunion est comparée à celle du Tchernobyl. La population augmente très vite avec une forte natalité et avec une chute de la mortalité. Donc les perspectives sont terribles. On a cette psychose-là. Voilà. On a le cinquième plan qui est là, publié en 1953 sur la Sakai, je vais y revenir. Mais vous voyez, hein, il a une vision catastrophique et on s'imagine qu'on va avoir en 1970 près de 450 000 habitants et 757 000 en 1980. Bref, on s'imagine qu'on a un cyclone démographique qui est attendu. La forte natalité, d'un point de vue politique, elle préoccupe aussi, parce que la jeunesse, elle n'est pas vue par les autorités locales comme une chance, mais comme une menace. N'oublions pas, il y a eu les émeutes dans la Caraïbe à la fin des années 50. On va connaître là, avec le Parti communiste réunionnais, une crainte qui sera relayée par Michel Debré, je vais en parler tout à l'heure, et on s'imagine que la jeunesse va favoriser la demande d'indépendance et d'autonomie. Pour mémoire, en 63, l'île elle compte 50 000 chômeurs et on a 2 000 demandes de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi pour 800 postes qui sont créés. Bref, la situation est démographique est tendue, le climat économique est terrible et on a ce climat d'opposition entre la droite locale et le Parti communiste réunionnais. Donc tous les experts et les élus de la Réunion s'accordent donc sur un point, le développement de ce jeune département, dont l'économie repose sur la monoculture sucrière, ne peut se concevoir qu'avec le transfert d'une partie de sa population. Et ça commence en fait à partir de 62, on va le voir, bien avant la création, bien avant, un an avant la création du Mubindom, avec l'envoi de jeunes réunionnais vers l'Hexagone. Alors, on ramène souvent l'épisode de la transplantation à l'élection de Michel Debré, qui fut député de la Réunion de 1963 à 1988, et qui crée donc ce bureau pour les migrations intéressant les DOM, qui va concerner aussi les autres départements d'outre-mer. Mais là, dans le cas de la Réunion, on va avoir un comité national d'accueil des Réunionnais, le CNARM, qui crée aussi en 1963 pour l'accueil des gens qui quittent l'île. Donc, quelle chronologie? Pourquoi 1962? On dit que toute l'affaire vient de Michel Debré. Or, s'il entérine très fortement la migration et cet épisode tragique des enfants de la Creuse, eh bien, on s'aperçoit que dès 1952, il y a une immigration de type colonisation qui est initiée par Raphaël Babette à Madagascar, dans la région de la Sakai. Et on a là une immigration de petits blancs des Hauts de la Réunion. Il y a 200 familles qui partent à Madagascar. Bon, c'est un échec par la suite. Et dès la fin 62, alors que 135 Réunionnais partent selon une migration organisée par le Bureau de la Population, eh bien, on a cette idée d'intégrer une dizaine de gens donc 10 filles, 10 garçons, qui sont issus de la population, et qui vont partir pour une formation professionnelle, et ce sont des mineurs. Et c'est ce type de placement qui est le déclencheur de la transplantation des mineurs à la charge de l'État, avec la figure, je viens de le dire, de Michel Debré, qui est élu à la Réunion de Sassan en 1963, et qui va lancer le dispositif du Bumidom. Donc, s'il entérine fortement la transplantation, il n'est pas à l'origine de ce dispositif. C'est important parce qu'il y a vraiment là un point d'achoppement et de dispute parfois sur les responsabilités. La commission a retenu 84 pour l'arrêt, même si avec 81 et la disparition du Bumidom, les contingents s'amenuisent. 84, pourquoi? Parce que c'est la déconcentration de l'ASE au sein des départements et on a trouvé que la date était pertinente. Mais j'ai envie de dire qu'on aurait pu continuer. Les adoptions hors de l'île, elles continuent encore aujourd'hui. Alors, quel terme? Nous, on a utilisé le terme mineur de la Réunion transplanté, qui est d'ailleurs utilisé par certains services sociaux de l'époque. Il y a toute une dispute, tout un dilemme autour du terme « déportation ». Alors, d'où vient ce terme ? Il vient en 1975 du professeur Denoy, qui est directeur général de la santé, et qui s'aperçoit dans une visite à Saint-Clar, dans le Gers, qu'il y a des mineurs réunionnais, et il écrit à Michel Debré en disant « c'est une déportation », entre guillemets. Michel Debré, en 1975, il est furieux, n'oublions pas, Debré est résistant et petit-fils de rabbin, et il dit « mais pourquoi vous utilisez ce terme ? C'est inapproprié, ce n'est pas possible. » Et 15 jours plus tard, Denoy lui répond « mais ça a un sens particulier dans le monde de la pédopsychiatrie, on utilise le terme « convoi » pour parler du déplacement de mineurs, et le terme, alors il ne le dit pas à Debré, mais ça vient de là, c'est Myriam David, qui est une pédopsychiatre française de renom, qui a été déportée dans les années de la Seconde Guerre mondiale et qui emploie le terme « déportation » dans ses travaux des années 50 pour interpeller les pouvoirs publics sur la situation dramatique de l'enfance en danger et pour dénoncer les principes du placement dans les campagnes qu'elle assimile à la déportation. Elle dit en outre, jusqu'en 70, les enfants de l'assistance ont des vêtements particuliers, donnés par les magasins de vêtures, et elle dit qu'ils portent tous les mêmes vêtements comme ont porté l'étoile jaune. Voilà un petit peu d'où vient le terme transplanté qui s'oppose à déportation. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en débattre. Mineurs de la Réunion, donc de 0 à 21 ans, parce que la majorité, elle est à 21 jusqu'en 74. Et vous voyez que l'origine des mineurs transplantés, ce ne sont pas que des mineurs qui sont nés à La Réunion. Il y en a qui sont nés dans l'Hexagone, qui sont partis à La Réunion et qui sont retournés dans l'Hexagone par les services sociaux. Il y a des Malgaches et il y a des Mauriciennes et des Mauriciens. Donc, mineurs de La Réunion. Même s'ils ne sont pas nombreux, ils ne sont pas tous réunionnais. Combien ? Alors, on a eu différentes sources, je les cite, je ne peux pas détailler parce que le temps passe. Et on est arrivé, selon des calculs vraiment laborieux, les deux historiens de la commission, Prosper Eve et Gilles Gauvin, ont fait un travail merveilleux. On est à 2015 mineurs qui ont circulé donc dans les dates que je viens de vous donner. Oui, alors, quand je disais qu'il y avait des romans qui contribuent à cette affaire et qui sont plus ou moins macoleurs, dans un roman de 2019, il est chiffré 2500. Bon, pourquoi pas ? Si tant est que les romans restent dans la littérature, mais certains se disent que ce sont des romans historiques. On y reviendra peut-être. Alors, qui ? Très important, on trouve trois catégories de mineurs. On a les recueillis temporaires, les jeunes en garde, les placés par la justice, et les pupilles orphelins ou abandonnés qui sont adoptables. Alors, lorsque certains ex-mineurs transplantés relayent dans la presse qui reprend ça sans regard critique, ils se disent scandalisés, ils en sont de raison, d'avoir été considérés comme pupilles alors qu'ils avaient encore des parents. Mais il dénonce là une réalité juridique, aussi injuste puisse-t-elle apparaître. Mais, vous le savez peut-être, après une période de désintérêt des parents de 6 mois, les services sociaux disposaient du droit de faire changer par procédure judiciaire le statut de mineur recueilli en tant que pupille abandonnée, donc adoptable. On représente souvent le mineur transplanté comme un créole à la peau noire. Or, puisque les origines ethniques étaient recensées par les services sociaux, on s'aperçoit qu'ils sont équivalents aux créoles clairs et que si on prend les chiffres de la population insulaire et qu'on les ramène aux transplantés, eh bien, on a d'ailleurs plus de créoles clairs qui sont envoyés dans l'île. Pour une bonne et simple raison, c'est que ceux qui adoptaient ne voulaient pas de petits noirs. À leur arrivée. Alors, vous voyez, l'examen de la carte de destination montre qu'elle ne correspond pas tout à fait à cette France rurale qu'ils avaient vocation à revitaliser. Bon, on a 83 départements qui ont reçu des ex-mineurs à un moment donné, et on remarque que si certains territoires ruraux en ont reçu, le Massif central, l'Oise, le Gers, il y a aussi le bassin parisien, les plateaux lorrains, et il y a aussi Paris, la Provence, le Languedoc-Roussillon. Et d'ailleurs, on les appelle les Réunionnais de la Creuse parce que c'est le plus fort contingent qui est parti en 1966. Il y en a 215 qui arrivent. Mais les effectifs de la Creuse ne représentent que 10%. 10%. Changement d'identité. Je remercie Valérie Anderson qui m'a permis de vous livrer aujourd'hui ces deux cartes d'identité. C'est un point de l'affaire qui est souvent cité et qui n'est pas toujours compris et qui pose toujours problème aux ex-mineurs transplantés qui cherchent encore leur origine. Prenons le cas de Valérie Anderson, qui est militante associative auprès de la Fédération des enfants déracinés des Roms. Elle n'a eu de cesse de chercher à comprendre son changement d'identité qu'elle a découvert à 16 ans. Elle est née sur le papier, vous le voyez à gauche, Valérie Lavaux, à la Brienne-Creuse, et elle découvre dans l'armoire de sa mère adoptive sa toute première carte d'identité. Donc, tu dis à gauche, c'est à droite. Donc, sa première carte d'identité qui est établie lors du départ à La Réunion en 1966 et sur laquelle elle s'appelle Marie-Germaine Périgogne, née à Bois-de-Nèfles-Saint-Paul à La Réunion. Personne n'avait été capable de lui expliquer clairement les raisons de ce qu'elle considérait comme la preuve flagrante du vol d'enfants dont elle, comme bien d'autres, aurait été victime. En réalité, bien que ce soit une procédure totalement dramatique, totalement horrible, c'est légal, c'est une légalité avec toutes les dérives possibles, puisque les services sociaux ont fait une utilisation totalement abusive de l'article 58 du Code civil, qui est revu par l'ordonnance du 23 août 58, et c'est un article qui est prévu au départ uniquement pour les enfants trouvés et qui est étendu aux enfants qui font l'objet d'une demande de secret de la part de la mère, hein, les enfants nés sous X. Bien, pour ces deux cas, la DAS attribue aux enfants un état civil provisoire et une nouvelle commune de naissance. Certains services, et c'est là où je crois qu'il y a faute, ont cependant continué par habitude à établir des états civils provisoires pour l'ensemble des mineurs proposés à l'adoption. C'est ainsi que de nombreux adoptés de France et de Navarre et de La Réunion doivent aujourd'hui encore se battre pour que leur identité d'origine soit révélée. Alors, je vois que le temps passe trop vite, j'ai prévu trop de slides. Les trois âges de l'affaire délabellisée Réunionnais de la Creuse. Alors, le premier moment, c'est celui de la genèse, 2001-2008, c'est quand Jean-Jacques Martial, que vous voyez en photo, lance le procès. Il lance son procès et le champ politique lui répond par un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales, publié en 2002, qui dit que bon an, mal an, les choses ont été respectées et qu'il n'y a pas de faute de l'État. C'est la demande d'Elisabeth Guigou. Il est en ligne, sur le web. C'est le moment où on a des publications scientifiques, la mémoire de maîtrise, un ouvrage qu'on a publié en 2004, un autre ouvrage qui est vraiment la charge, la déportation des Réunionnais de la Creuse, et puis l'ouvrage d'Yvan Jablonka, publié en 2007. Alors, dans cette affaire, il y a beaucoup de romans, beaucoup de documentaires qui ont été faits, beaucoup d'autobiographies, de récits biographiques, etc. Celle de Jean-Jacques Martial, le bouquin de William Muret. Alors, il y a des hypothèses franc-maçonnes là-dedans, ça serait une responsabilité de franc-maçons. Maria Arghini, une affaire d'amour, et puis les deux récits biographiques de deux ex-mineurs transplantés. Les associations, il y en a plusieurs, elles ne sont pas toutes d'accord. Par exemple, le Cercle des Amitiés Créoles de la Creuse, bon, dès que la plainte de Jean-Jacques Martial est énoncée, eux, ils disent on ne rentre pas là-dedans. Pour nous, ça a été totalement une chance, cette transplantation, et on n'est pas du tout d'accord avec les revendications. Bon, je passe sur le buzz médiatique, hein, il y en a eu vraiment beaucoup. Il y a un deuxième moment qui est le creux de la vague. Là, de 2004 à 2013, je dois dire que après les 20 procédures qui ont été portées par une cinquantaine de plaignants qui n'ont jamais abouti devant la justice, elles sont rejetées jusqu'en Cour européenne des droits de l'homme, qui déclare le 15 décembre 2011, la Cour n'a révélé aucune apparence de violation des droits et des libertés. Donc, ils sont déboutés. Ça ne fait plus le buzz, ni dans l'Hexagone, ni à La Réunion. Troisième moment, c'est la reprise. Il y a ce documentaire de Sudel Fuma et William Cali en 2013, et il y a un direct sur le plateau, je me trouve à côté de Sudel Fuma, et vraiment ça fait un buzz, et l'île est vraiment très choquée par cette affaire. C'est un peu la relance de cet épisode de l'histoire de France. Il y a, relayé par Sudel Fuma, Et les associations la demandent d'une stèle, et puis le département y répond avec à l'aéroport de La Réunion, vous avez une stèle qui est déposée, qui rend hommage aux ex-mineurs transplantés. Le 18 février 2014, point important, c'est qu'une résolution de loi est votée à l'Assemblée nationale, et il rentre dans l'histoire de France, hein, les Réunionnais de la Creuse, vous voyez la une de Libé. Et c'est une résolution de loi qui reconnaît la responsabilité morale, j'insiste sur le terme de morale, de l'État français. En 2015, suite hélas au décès de Sudel Fuma, tragiquement en mer, j'organise un colloque hommage. Et là, il y a un buzz politique. Je ne comprends pas bien ce qui se passe, mais en montant ce colloque à la Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme à Aix-en-Provence, eh bien, ça commence par le recteur, par la mairie d'Aix-en-Provence, et vous voyez, il y a Georges Collangevin, la ministre, qui vient à ce colloque et qui annonce qu'une commission sera créée pour faire lumière sur cette affaire. Donc, en 2016, une création est créée, que j'ai eu l'honneur de présider, avec Wilfried Bertil, Marie Prosperève, Gilles Gauvin, Michel Verneret, qui démissionnera en 2017 pour des raisons tout à fait personnelles. Donc, on a, vous voyez, l'article premier en charge de faire une démographie de cet épisode, d'expliquer un peu ce qui s'est passé, d'identifier les contraintes à la transmission des dossiers, de proposer des mesures en faveur des ex-mineurs transplantés. Vous voyez, il y a une lettre d'Emmanuel Macron, notre président, qui écrit à la Fédération des enfants déracinés des Roms et qui dit « Il apparaît à présent, avec les lumières du recul de l'histoire, que cette politique était une faute, car elle a aggravé dans bien des cas la détresse des enfants qu'elle souhaitait aider. » On pourra y revenir durant la conversation, mais nous sommes en 2017, nous n'avons pas rendu le rapport et nous ne sommes pas au courant. Emmanuel Macron envoie cette lettre aux associations, disant que c'était une faute. On s'est rendu deux fois à l'Élysée, on a été auditionné, mais surprise, on a cette lettre-là qui nous parvient par les associations. 2018, on rend le rapport avec nos conclusions, nos préconisations, en pointant le dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, pour les Réunionnais en particulier et pour les Français en général, ça continue aujourd'hui. Et la ministre annonce qu'il va y avoir des mesures co-construites avec les ex-mineurs qui attendent toujours ces mesures et qui, aujourd'hui, ont une avocate et relancent un procès. Voilà, le discours de la ministre, rien ne sera fait sans vous, voilà, etc. Rien n'a été fait, si ce n'est que Erika Barèche, avant son départ du ministère, elle a mis en place un dispositif pour payer les transports aux ex-mineurs, leur garantir leur hébergement et garantir que tous les dossiers sont accessibles à ces ex-mineurs. Elle a fait ça avant notre remise de rapport. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Stand-by politique, quid des préconisations ? Notre travail, qui est devenu une liste de 2015 ex-mineurs, je pourrais venir là-dessus, doit enfin être accueilli par les archives de France, parce que j'étais très inquiet en tant que président de cette ex-commission de savoir ce qui était devenu cette liste, qui est un outil pour nous. Il y a bien sûr un opportunisme littéraire qui réécrit l'histoire. Alors vous voyez Ariane Bois, l'histoire l'île aux enfants, elle parle d'une Shoah sans les Juifs, un kidnapping d'État, ça s'est arrêté qu'à La Réunion est devenue plus riche. Moi, je n'ai aucun problème avec les littéraires, comme je leur dis toujours, mais c'est que quand ils vont dans les médias, ils disent « voilà comment ça s'est passé ». Jean-François Samelon qui dit « 2500 enfants » et qui dit « finalement, je suis allé dans la Creuse et j'ai rencontré encore aujourd'hui des paysans qui ont peu de culture, etc., qui ont qualifié et qui ont traité les mineurs comme des petits nègres ». Il faut bien vous dire que ça fait le buzz, ces bouquins-là, et que pendant ce temps, notre rapport… Il est peu lu, il fait 700 pages, je sais que c'est un peu indigeste, mais il fallait bien traiter cette histoire. J'en conclue, on peut se dire, mais oui, c'était le passé, on se dit que la question climatique, la question démographique Elle est toujours d'actualité. En 2019, le plus grand choc mondial sera-t-il démographique plutôt que climatique, dit Nicolas Sarkozy. Et la montagne, donc, qui propose, les élus de la Creuse proposent de construire une prison pour revitaliser leur département. Bon, on se dit pourquoi pas. Et je ne veux pas le mettre, mais à l'Assemblée nationale, bon, j'avais la vidéo, hein, on aurait pu l'entendre, ça dure 2 minutes. Monsieur Mélenchon, qui propose, suite aux émeutes à Mayotte, il dit qu'il faut absolument recueillir 5000 Mahorais, jeunes Mahorais, les enfants des rues. Il faut les accueillir dans l'Hexagone. C'est le rôle de la France de les accueillir. On peut se dire oui, pourquoi pas. Mais est-ce qu'on n'est pas là dans une reproduction de l'histoire ? Merci pour votre écoute et je répondrai volontiers à vos questions.
Alors, voilà. Merci beaucoup, Philippe. Donc, je ne sais pas si c'est bon. Donc, en fait, je vais essayer de répondre, d'introduire la discussion suite à ton intervention. Et donc, normalement, on devrait m'entendre aussi dans la salle avec le micro. Donc, bon, merci beaucoup pour cette présentation vraiment très intéressante. C'est vrai que c'est d'autant plus intéressante qu'elle fait écho en fait à la présentation précédente d'une certaine manière qui parlait aussi de mineurs déplacés dans le cadre de la guerre d'Espagne et à la fois les contextes sont très différents puisque dans un cas alors à part on a vu des critiques du Vatican etc mais dans le cas des mineurs espagnols c'est quelque chose qui a été accueilli positivement. Et là, au contraire, évidemment, c'est pour des raisons qui ont été explicitées dans la présentation. C'est quelque chose qui a été grandement débattu et critiqué. Mais en même temps, on voit aussi beaucoup de similarités dans les logiques d'assistance, dans la question de comment les accueillir, de où les accueillir, des circonstances dans lesquelles ils sont venus en France. Alors, moi, tout simplement, pour ouvrir la discussion, j'avais un peu une grosse question... avec plusieurs sous-questions, ou je ne sais pas exactement, enfin, un retour sur ce que tu as dit. Alors, en fait, moi, ce que je trouve assez frappant, en fait, dans les trajectoires de ces mineurs, c'est, en fait, l'hétérogénéité des parcours. Parce qu'on a l'impression que, d'un côté, et enfin, moi, j'avais aussi assisté, c'est vrai, à des témoignages, en fait, de ces mineurs qui ont été déplacés. Et c'est vrai qu'il y a une hétérogénéité dans les parcours entre certains qui ont vécu finalement des trajectoires qu'on pourrait dire standards d'adopter, c'est-à-dire qui étaient effectivement... alors les parents n'étaient pas forcément décédés, mais qui étaient dans une situation où les parents voulaient les laisser à l'adoption et qui ont été adoptés dans des familles comme peuvent l'être d'autres enfants issus d'autres arrière-plans. Et donc qui rencontrent des difficultés, mais qui sont d'identité, plein de choses, notamment effectivement d'être un enfant... non blanc adopté par des parents blancs de classe supérieure, ça pouvait être des questions comme ça aussi. Mais et de l'autre côté, en fait, des migrants qui avaient eux connu, enfin des déplacés qui avaient eux connu des très grandes difficultés. Ça a été un petit peu évoqué. Il y a eu aussi des grandes souffrances associées à ces déplacements. Il y a eu des abus. On a parlé de travail forcé. On a parlé d'abus sexuels pour les. Donc il y a eu vraiment des problèmes comme ça. Et donc, du coup, moi, un peu ma question, c'était effectivement comment, dans la rédaction de ce rapport, notamment, vous avez réussi ou pas réussi, en tout cas, comment vous avez pris ce problème-là, de réussir à séparer, en tout cas, à distinguer un peu la spécificité du cas des difficultés, des souffrances rencontrées par ces personnes-là, des difficultés rencontrées plus généralement par les adoptés. Et une deuxième question un petit peu liée là-dessus, c'est effectivement ça rentre aussi là-dedans, c'est en fait comment ça se traduit effectivement dans l'enjeu des mesures de réparation, parce qu'il y a des souffrances pour lesquelles l'État d'une certaine manière, que l'État peut reconnaître sans leur devoir réparation on dirait, parce que c'est des souffrances qui sont rencontrées dans d'autres cas qui ne relèvent pas de la faute de l'État, et d'autres pour lesquelles elles relèvent de la faute de l'État. Comment on distingue ces deux-là entre des abus pour moi en fait il y a aussi un peu une tension entre le fait qu'on peut identifier des abus qui ont été commis dans le cas du déplacement, des changements d'identité, mais aussi des abus, on l'a dit, dans les familles ou les centres où ils étaient accueillis. Et ça, c'est des choses qui sont identifiables comme un peu comme des crimes, des délits. Et de l'autre côté, il y a quelque chose qui est plus large, qui est plus systémique, on pourrait dire, qui est finalement cette qualification excessive, d'une part de l'excès de population, d'autre part de la... Enfin, excessive ou pas, ça, je suis aussi curieuse d'avoir les retours là-dessus, de la misère dans laquelle ils vivaient, de, effectivement, l'abandon volontaire ou non des parents. J'espère que c'était clair, ça partait un petit peu dans tous les sens, mais voilà.
Non, c'est très clair, mais... Je pense que les réponses sont dans la question, en fait. Je suis tout à fait d'accord que, en fait, cet épisode si particulier de transplantation, il est exemplaire d'un dysfonctionnement passé et on pourrait même dire présent de l'aide sociale à l'enfance, et que ce qu'ils ont vécu peut servir aussi la cause qu'on essaie de leur dire de l'enfance en danger contemporain. Ce qu'il y a de spécifique, c'est ce que tu as souligné, c'est que, j'allais dire, bien sûr, ça rentre dans le cadre général de l'enfance en danger. Hein. Un Breton ou un Aixois a vécu sans doute le même traumatisme, ou pas d'ailleurs, mais de l'adoption. Là, je pourrais dire qu'ils ont eu une double peine, c'est-à-dire que autant on faisait fi des fratries, on pensait à l'époque... Comme pour les hexagonaux, hein, qu'il fallait casser les fratries pour que la personne s'intègre plus facilement dans son nouveau milieu. Et eux, ils ont eu la double peine. C'est qu'en même temps, ils venaient d'une culture tout à fait différente, d'un climat tout à fait différent, avec, n'oublions pas, une langue qui est aujourd'hui parlée à 80% à La Réunion, encore le créole réunionnais. Ils avaient la couleur de peau, même si on a vu que ce n'étaient pas tous des petits noirs, mais tout de même. Ils ont eu cette double peine-là qui fait que c'est un épisode spécifique. En outre, ils n'ont jamais pu retourner sur leur île. Et c'est ce qu'ils déclarent qu'on a avancé à leurs parents. Le principal problème qu'on a, c'est que là, on est entre histoire et mémoire. C'est-à-dire que nous, on a rencontré, j'en ai rencontré 12 de familles qui ont laissé partir leur gamin. Mais on est sur du dire. Alors, beaucoup disent, mais nos parents nous ont laissé partir, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Alors, parfois, il y a sur la lettre de la DAS, il y a eu l'empreinte d'un doigt, il y a une croix, il y en avait qui étaient illettrés. Et bon, mais comment, si vous voulez, comment on peut... prouver en termes presque de justice. C'est pour ça qu'ils ont été déboutés hein, jusqu'en Cour européenne des droits de l'homme. Hein. Outre la prescription, c'est qu'on est là sur du déclaratif. Ce qui est clair, c'est qu'ils ont, même ceux qui disent qu'ils s'en sont sortis, ils ont tous souffert. J'ai dû faire peut-être une centaine, voire plus. Je travaille depuis 2000 hein, sur cette affaire. Entretien sur la centaine d'entretiens, même ceux qui déclaraient ça s'est bien passé, il y avait toujours à un moment donné une larme qui coulait durant l'entretien, une véritable souffrance. Hétérogénéité des parcours, oui, mais genèse de la misère aussi. C'est-à-dire, ils sont rares. Je pense par exemple à un cas d'un gamin qui est parti, dont le père était architecte, qui divorce, qui est en addiction alcoolique, et les services sociaux le récupèrent, ce gamin. C'est un architecte qui est à La Réunion, mais ils ne sont pas légion. Hein. Ils ne sont pas légion. C'est souvent le bas de l'ascenseur social, avec des familles de 8-10 enfants, des histoires compliquées. Et bon, hétérogénéité des parcours, oui, on peut dire que sur les 150 que nous connaissons, c'est-à-dire sur les 2015, on en connaît au mieux 150. Hein. Les autres, on ne sait pas. Ils ne se sont pas déclarés, on a fait des campagnes de presse, on a vraiment tout fait pour essayer de les connaître. Soit ils ne se déclarent pas parce qu'ils ne savent pas que ce sont des enfants transplantés, soit, c'est une hypothèse tout à fait plausible, ils ne souhaitent pas enclencher une recherche ou se déclarer comme enfant transplanté, ex-mineur transplanté. Cet élément-là, puisque tu parlais des revendications, pour les revendications, sur les 2015, il y en a 150 qu'on connaît et il y en a une trentaine d'actifs. Actifs dans les revendications. Et les revendications, ce n'est pas un groupe homogène, ceux qui revendiquent. Bien sûr, il y a la Fédération des enfants déracinés des Roms qui possède les plus gros effectifs, mais il y a d'autres associations, Génération 3D par exemple, qui eux revendiquent leur déportation et ils ne veulent pas de reconnaissance morale, ils ne veulent pas de reconnaissance symbolique comme la FED le demande aujourd'hui, elle veut des excuses de l'État, mais eux revendiquent de l'argent sonnant et trébuchant. On a droit à une réparation financière. La Fédération des enfants déracinés des Roms a laissé tomber cette demande-là. Et par le biais de leur avocate, là, ce qu'ils demandent, c'est une maison du souvenir dans l'Hexagone et à La Réunion, les excuses de l'État, que soient garantis les billets d'avion et l'hébergement quand ils vont sur place pour consulter leur dossier. Mais ils ne sont plus sur le registre financier. D'autres associations sont sur ce registre-là. Donc, c'est une hétérogénéité des parcours, mais finalement assez dialectique dans leur revendication. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Hein.
Alors, oui, merci. Alors, je vais répéter, Marine, parce qu'on ne t'entend pas bien dans la salle. Donc, on va prendre les questions dans la salle. Et Marine, donc, qui est en régie, va les transmettre à Philippe pour une bonne communication.
Oui, bonjour Philippe, Franck Temporal, merci pour ta communication. Moi, je me demandais, tu disais qu'il y avait une relance du procès après la publication du rapport en 2018. Et ma question, c'est est-ce qu'il y avait vraiment des éléments nouveaux qui permettaient d'imaginer une action collective, sachant que la Cour européenne, y compris, normalement, c'était un point final à tout recours. Merci.
Bonjour Philippe, merci beaucoup pour la présentation. Et donc Ekram Bouptan, donc ma question c'est la décision de migrer pour les mineurs. Ce qui est assez compliqué dans ce cas de figure, c'est que cette décision de migrer, normalement, elle est prise toutes les décisions pour les mineurs sont prises par les parents, normalement. En l'absence des parents, c'est la collectivité, représentée par l'État, qui va prendre la décision. Et donc on a pris cette décision à une époque, dans un contexte, donc ex ante. Et aujourd'hui, effectivement, on réfléchit sur cette décision, on essaye de la comprendre et de voir ses conséquences ex post. Et donc, comment voyez-vous, effectivement, d'une manière générale, comment s'articule cette décision de migrer pour les mineurs ? Après, ces mineurs deviennent adultes, ils vont, avec l'expérience, ils vont revoir cette décision, ils vont aussi la juger. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ces questions ? Je ne sais pas si j'étais claire.
Ok, donc je remercie pour les questions. Merci Franck pour cette question. Après relance du procès en 2018, y a-t-il des éléments nouveaux qui permettraient de relancer ? En fait, ils se fondent. Je dois dire que j'ai eu plusieurs fois au téléphone leur avocate. Bon, je garde mon rôle de présidente de l'ex-commission et de sociologue. C'est compliqué, hein ? Et en fait, ils se servent de notre rapport. C'est-à-dire, pour eux, le dysfonctionnement de l'ASE qu'on soulève, alors bien sûr, il ne faut pas d'anachronisme, mais je vois la deuxième question, c'est bien sûr que c'est compliqué, parce que si on regarde aujourd'hui les décisions du passé, on en vient à déboulonner des statuts. Donc, je ne sais pas. En tout cas, de nouveau, ben déjà, c'est le chiffre, 2015, on était à 1600 auparavant, 2015 et cette utilisation abusive de l'article 58 qui fait qu'on les a considérés comme des nés sous X. Et que les recueillis temporaires, par un passage tout à fait surprenant, se sont retrouvés orphelins, abandonnés. Comment s'est passée l'attente des 4 mois? Est-ce que les parents n'ont pas contacté, etc.? Ça, franchement, nous, on s'est fondé aux archives et une fois encore, c'est très compliqué là de se fier aux témoignages parce que les témoignages sont terriblement divergents. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. C'est ça.
Marine reformule. Oui, la question.
Cette décision-là est prise par la DAS, par le juge des familles, etc. Le problème qui se pose et qui est, à mon avis, indémontrable aujourd'hui, là c'est tout le problème de l'histoire et des mémoires, c'est que beaucoup disent mais nos parents ont signé un document dont ils n'avaient pas connaissance, ils ne savaient pas lire, on a signé à leur place, etc. Bon, ben comment faire pour corroborer ce qu'on nous dit et ce qui est dans les documents de la DAS qu'on a pu consulter? Parfois on s'apercevait quand même, moi j'ai toujours fait confiance, je ne suis pas ni juge ni procureur là-dedans, hein. On s'apercevait qu'il y avait des recompositions mémorielles, certains se présentant dans une famille idyllique, c'est le syndrome un peu de Peter Pan, hein. Et on s'apercevait en regardant les déclarations de police, etc., que c'était un univers complètement dramatique pour eux. Je n'aurais pas aimé être assistant social à cette période, hein. Parfois, pour d'autres, évidemment, quand on s'aperçoit qu'il y a eu viol dans les foyers, qu'il y a eu des violences physiques, il y a eu de vrais drames, hein, de vrais drames. Bon, c'est toujours, encore une fois, on a toujours été dans cette étude dans le tiraillement entre histoire et mémoire avec un S.
Très bien. Merci Philippe, merci à toutes et à tous. On va faire une petite pause de 10 minutes pour avant la dernière intervention de la matinée.